Une fin d'après-midi au soleil pour nous ici du côté du Noirmont. Le temps est magnifique pour cette première journée de la 25e édition du Chant du Gros. Et impossible d'évoquer justement cette 25e édition sans donner la parole à un homme.
Il est là depuis le tout début, dès la première. Il est le boss, il est le directeur, il est l'incarnation physique du Chant du Gros. Gilles Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez rester avec nous un moment pour évoquer un peu hein, toute cette belle histoire qu'est le Chant du Gros. C'est 25 éditions, enfin 24 pour l'instant, la 25e, elle débute aujourd'hui. Mais avant, on a quelques petits messages pour vous, écoutez bien.
Le Chant du Gros fête ses 25 ans, qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter?
Déjà, joyeux anniversaire, puis franchement, ça va être cool parce que j'y suis le jeudi, donc ça va être super bien, quoi.
Bonne chance pour ses 25 ans.
Qu'il n'y ait pas de pluie. Plein de bonheur, plein de réussite.
25 psylos de plus, c'est une bonne saison.
Et qu'il y ait beaucoup de monde.
25 ans supplémentaires.
Joyeux anniversaire.
Ce ne sont là que quelques témoignages, mais on aurait pu en trouver bien d'autres. Hein, tant le Chant du Gros fédère plus qu'un canton, toute une région. Gilles Pierre, vous retrouvez à la tête de cette entreprise, de cette institution qui est devenue le Chant du Gros. Ça vous fait quoi?
Ah bah c'est quelque chose de magique, hein. C'est un truc de fou. C'est vrai que c'est parti d'un pari de copains à se dire tiens, on pourrait monter un festival ici. C'était assez utopique, c'était une aventure qu'on pensait qui n'allait pas forcément durer, quoi. C'était vraiment le pari d'une équipe de potes. Et puis finalement, bah, c'est vrai qu'avec un peu de chance, avec plein de gens ultra motivés à donner du temps pour ce festival, des bénévoles au taquet, bah voilà, l'aventure s'est poursuivie et il y a eu plein de miracles qui sont passés ces dernières années. Et voilà, on est au taquet, quoi. On est comme si on était à la première édition, motivé à fond. Et puis de voir tous ces gens qui viennent ici avec le sourire dans un endroit un peu improbable, à 1000 mètres d'altitude au mois de septembre, faire la fête, c'est magique.
Mais justement, alors vous l'avez déjà un peu évoqué, c'est parti d'une soirée finalement entre potes. Est-ce qu'on peut remonter le temps jusqu'en 1992? Racontez-nous un peu l'ambiance qui régnait au moment où vous vous êtes dit mais on va faire un festival.
Alors l'ambiance, c'était drôle parce que c'était un apéritif très très arrosé au Café de l'Union au Noirmont. Et puis la Rouge, qui est Marie Von Pic, avait lancé l'idée de dire on pourrait faire un festival. Alors bah, évidemment, hein, quand on est tous avec un petit peu d'alcool et en soirée,
joyeux,
on se dit bah youpi, évidemment, on va le faire ce festival, c'est une très bonne idée. Et du coup, en 3 semaines, l'aventure s'est montée, donc chacun a pris ses responsabilités. Y en a qui ont dit bah, on va aller chercher des chars à pont, d'autres une bâche, il y a des potes, bah, des talus qui ont dit bah, on va installer quelque part. Et tout le monde a mis un peu la main à la pâte pour monter cette première édition. C'était de la conscience totale, mais c'était super chouette. Et on n'a pas eu de chance, hein. Il a plu toute la journée, mais quand même il y a 200 personnes qui sont venues. Nous, ça nous a donné un déclic en disant bah, c'est chouette, on s'éclate. L'idée, c'était des rêves aussi au départ, hein, de faire venir des groupes qu'on adorait comme les Young Lots. Et puis faire jouer aussi les potes de la région. Et Petit Gay, qui faisait partie du comité, jouait ici avec une équipe. Et puis là, l'idée, c'était de lui dire bah, écoute, toi, tu vas pouvoir jouer aussi au festival. Donc on le faisait un petit peu pour nous, un petit peu pour les potes, et puis un peu pour peut-être accéder à des groupes qu'on adorait, quoi.
Alors il y a eu, enfin moi je dis déjà chapeau d'une soirée arrosée, de se dire on va faire un festival et de le faire pour de vrai, parce que des projets complètement fous, j'en ai aussi eu pas mal en fait, mais ça n'a jamais donné grand chose. Mais il y a eu l'idée ensuite de le répéter, cette folie si j'ose dire, avec différentes éditions. Comment vous êtes dit on recommence l'année suivante?
Ben, en fait, finalement, le but, c'était de prendre du plaisir, de ne pas perdre d'argent, et puis donner du plaisir également. Et puis, ben, comme ça collait, comme ça marchait, ça donnait la motivation à tout le monde de dire, bon, on va continuer, on va faire ce festival qui perdure, que les gens puissent s'éclater. Et puis après, bon, voilà, il y avait des visions des fois un peu différentes, où tout à coup... Je me souviens que des gens ne voulaient pas forcément de commercial, d'autres des trucs beaucoup plus pointus. Il y a eu des combats qui se sont faits. Avec les années, ben, forcément le festival a évolué. Mais on essayait... Voilà, moi l'idée en tout cas était de dire il faut vraiment faire un festival, mais aussi faire plaisir à tout le monde. Partir dans un festival très très pointu avec que des groupes qui concernent quelques personnes, c'est vachement dur dans les franches montagnes. Par contre, pouvoir amener des groupes qui passent aussi un petit peu en radio, qui sont un petit peu plus populaires, bah, c'était un double pari, parce que du coup ça faisait venir du monde, mais ça permettait à ce monde de découvrir des groupes plus pointus. Et je pense qu'on est arrivé à ce mélange avec les années, de faire venir des gens assez populaires qui tirent vraiment les fous. cool et d'amener des groupes beaucoup plus pointus que les gens découvrent.
Est-ce qu'on peut dire que votre premier coup pour la programmation, c'est No One Is Innocent, 4e édition en 95, à l'époque où ils étaient assez gros?
Oui, en effet, ouais, je pense que le premier coup, c'est vraiment No One Is Innocent. Là, ils étaient au taquet, hein, ils faisaient tous les gros festivals, ils ont fait Paléo cette année, ils ont fait les Rock'n de Belfort. Et puis du coup, pour nous, c'était un rêve d'accueillir des stars comme ça. Et c'est drôle, hein, parce que No One Is Innocent, c'est une belle histoire. En fait, je me souviens que c'était compliqué, très très compliqué avec eux. Ils étaient arrivés dans une ambiance assez moyenne, même un peu tendue. Et puis ils étaient partis encore un peu plus tendus, sans forcément nous remercier. Ça nous avait fait vraiment mal au cœur. Et puis en plus, on avait investi énormément d'argent cette année-là. On avait perdu de l'argent d'ailleurs. Et puis on était un peu dégoûtés. Et je dois dire que quand on les a réinvités 10 ans après, moi j'ai discuté avec eux en leur disant « Vous avez eu raison de votre comportement ». Parce que
c'est vrai que... Pourquoi ce comportement ?
Ben, en fait, quand on est bénévole et puis uniquement bénévole, c'est vrai qu'on attend que le groupe soit cool, soit sympa. Et ça paraît assez logique. À un moment donné, quand on devient professionnel dans la musique, on remarque que c'est pas si évident que ça. Qu'un festival, même si nous on s'éclate, le groupe il vient pas forcément pour s'éclater. Le groupe, lui, il vend un concert, il vend de la musique. Et puis si le groupe fait un mauvais concert par rapport à un accueil qui est pas bon, des instruments, de la sono qui est mal installée, ils ont mangé des pâtes, des trucs un peu basiques et tout. À un moment donné, ils font ça tous les jours. Et puis si le concert est mauvais, il n'y a personne dans le public qui va dire « l'organisation était mauvaise ». Tout le monde va dire « j'ai vu ce concert, c'était pas bien ». Et du coup, on peut pas non plus s'amuser à un moment donné. On accueille des gens qui sont professionnels. Le respect, c'est de leur apporter quand même un confort professionnel et puis qu'ils puissent faire un concert dans de bonnes conditions.
Gilles-Pierre, on va continuer d'évoquer cette belle histoire, mais je vous propose peut-être nous replonger à cette époque en 94 en musique avec un titre de No One Is Innocent, vu qu'au final, on a compris que c'était au final un plutôt bon souvenir. On écoute leur titre, La Peur. No One Is Innocent, un titre, c'était La Peur. No One Is Innocent, Gilles-Pierre, on l'a dit, ils étaient là en 94 et ils sont revenus deux fois depuis. Ils étaient là l'an dernier, par exemple. Des groupes qui reviennent, on pense par exemple également à Thiéfaine cette année, qui joue également au chant du groupe pour la troisième fois. Des groupes ou des chanteurs qui reviennent, c'est qu'ils ont eu du plaisir la première fois.
Ouais, forcément. Et puis c'est que nous, on a du plaisir aussi à les réinviter. En principe, on essaie toujours de jouer comme avec l'actualité d'un artiste. Dès qu'il sort un album, si l'album est bien, il n'y a pas de raison qu'on ne le réinvite pas. Même si l'album est mauvais, finalement. Parce que la scène, c'est différent qu'un album. Et puis, c'est vrai qu'avec les années, on tisse des liens assez particuliers avec les artistes. Avant, je discutais avec Manu Chao, c'est que je lui disais, t'es ici à la maison. Il me disait, ouais, ça se sent qu'on est ici à la maison. Donc, c'est une ambiance quand même particulière où, je sais pas si c'est les Franches-Montagnes ou les Jurassiens, où on aime les gens. On les voit, on leur tape sur l'épaule, on leur dit bienvenue, t'es à la maison, et puis je pense que ça se ressent.
On continue à parler un peu de cette belle histoire du chant du gros, juste encore après quelques notes de musique.
Du chant du gros, on est toujours en compagnie de Gilles-Pierre et on parle de cette 25e édition. Et pour en parler, on se remémore tous ces bons souvenirs. Là, on est en 1998, 7e édition. Gilles, à partir de là, elle devient payante le samedi soir pour la modique somme de 11 francs. Alors, pourquoi ?
Alors bon, parce qu'effectivement un festival coûte vite cher, avec l'infrastructure, avec la sono, et puis là on se rendait compte que ça jouait plus, malheureusement, on n'arrivait plus à gérer le coût. Autre chose, c'est vrai que pas mal de partenaires commençaient à nous dire, mais bon, finalement c'est un peu nous qui payons ce festival, est-ce que vous voulez pas jouer un petit peu le jeu et demander une modique somme d'entrée? Donc du coup, il y a eu des gros débats au comité où on a dit, on laisse le vendredi soir gratos, le samedi on le fait payer en 10 francs, et puis à ce temps-là on a fait un fonds de soutien pour la musique, c'était une idée du rocker à l'origine, avec le festival de Montsoleil et le festival de Neuchâtel. C'était Festi Jazz à Neuchâtel en ce temps-là.
Exactement.
Et on avait décidé de mettre un franc par entrée payante pour créer une sorte de fonds de soutien. On a fait des concours en France, en Suisse. On donnait la chance à des petits groupes régionaux de pouvoir jouer dans les festivals. C'était une belle aventure qui n'a malheureusement pas duré longtemps, mais au moins qui a le mérite de s'être fait pendant 3 ans.
Et la même année, comme invité, il y avait Daran et les Chaises. Et à ce propos, vous avez une petite anecdote.
Ouais, alors là, c'était assez particulier. C'est vrai qu'au mois de septembre, ici, on trouve des champignons qui sont hallucinogènes dans les champs. Et en principe, on les trouve dans les pâturages. Et cette année-là, il s'avère que, je ne sais pas pourquoi, il y en avait partout au champ du Gros, alors qu'il n'y a pas de bétail. Et les musiciens de Daran ont repéré la chose. Et du coup, ils sont partis dans les champs. Et Daran était tout seul sur scène en me disant, mais je dois commencer le concert, mes musiciens sont pas là. Et on les cherchait et on les a finalement retrouvés dans un champ en train de dire c'est bon, on a la cueillette. Et ça s'est passé que cette année-là.
Oui, il doit y en avoir pas mal quand même des anecdotes comme ça en 25 ans. Vous nous le disiez au début, enfin on le sait, l'histoire a commencé d'une soirée arrosée entre potes et vous avez dit la phrase on va faire un festival de musique pour accueillir les Young Gods.
Ouais.
Vous avez dit quelque chose comme ça. Et ils sont venus, les Young Gods, c'était lors de la 10e édition en 2001. Et du coup, déçu, surpris, content?
Non, heureux. C'est vrai qu'on avait un peu lancé le festival pour des groupes comme ça. Il y en avait d'autres qu'on avait vraiment envie d'accueillir. Il y avait Analso the Tree, je me souviens aussi, ou les Killing Joke. Mais les Young Gods, on voulait vraiment, vraiment les faire venir. On s'est battu pas mal d'années. Et puis, ils sont venus au 10e. Ils ont eu un plaisir fou. Ils ont fait un super concert. Je pense que tout le monde se souvient de ce concert. D'ailleurs, ils sont revenus depuis, mais non, c'était une consécration de les accueillir ici au Champ du Gros.
Bah, est-ce qu'on n'écouterait pas un peu Young Gods se remettre dans l'ambiance de 2001?
Avec un énorme plaisir.
Allez, c'est parti. No Lands Man, le titre des Young Gods qui étaient là pour fêter le 10e anniversaire du Champ du Gros. Cette année, on fête les 25 ans et on est toujours avec Gilles-Pierre, le boss, pour évoquer un peu ces 25 années. Alors, le Champ du Gros 25e, ça démarre ce soir dès 18h pour l'ouverture des portes. Là, c'est encore fermé, tout le monde se prépare et vous entendez certainement en fond. C'est Kiki Crétin et les fanfares réunis de Courtemèche qui sont en train de faire les essais sur scène et visiblement, ils donnent pas mal de jus et ça risque d'être très très bien ce soir.
C'est
Manu Chao. Ça, c'est plutôt Manu Chao.
C'est plutôt Manu Chao, d'accord. Bon, c'est vrai qu'avec le retour avec le casque, c'est pas forcément de toujours entendre. Alors, c'est Manu Chao, d'accord. Bon, Manu Chao également ce soir. Gilles-Pierre, on revient sur ce Champ du Gros. Vous le disiez, il y a eu une belle évolution depuis les premières années. Il y a eu cette 7e année où il a fallu se poser la question est-ce qu'on fait payer de plus en plus de groupes. Comment ça vous avez senti, vous, l'évolution du marché? Parce que les festivals ont énormément évolué. Avec 25 ans au compteur, vous faites quand même partie des plus vieux, donc vous avez vu émerger beaucoup de choses de plus en plus. Comment vous, en tant que directeur, vous voyez la chose?
Alors c'est assez drôle parce que c'est vrai que quand nous on a commencé le Champ du Gros, où je me souviens à cet âge là mon frangin allait à Paléo typiquement, quand on allait à Paléo Festival, on était un hippie à moitié drogué qui allait voir un truc bizarre quoi. Et à ce temps là c'est vrai que quand on disait on va à Paléo, les gens disaient oh, bon tu vas à Paléo, alors qu'aujourd'hui on dit ah bon tu vas pas à Paléo. Donc voilà, la différence elle est là.
Ça,
tout
ça
simplement
a bien évolué, ouais.
C'est devenu très très populaire. C'est vrai que il faut faire ses armes hein. Et puis je peux comprendre que des gens soient réticents à dire mais comment ça va se passer, est-ce que la musique est pas trop forte, est-ce qu'on va pas être trop serré, chahuté, est-ce que les gens sont cool. Et du coup le Champ du Gros a démontré ça, a démontré que même si tout à coup quelqu'un venait à fumer un pétard, c'était pas la fin du monde, il était plutôt sympathique. Et puis alors je dis pas qu'il faut le faire hein, bien au contraire, mais voilà, ça a démontré quand même finalement qu'on pouvait partager des bons moments avec toute une culture, avec des gens complètement différents. Et puis on le vit vraiment au Champ du Gros, on le vit même des fois au VIP où on trouve un bénévole qui a bossé pendant une semaine ou deux semaines au taquet avec un directeur, avec un conseiller fédéral, et ce mélange il est magique. Et on le trouve aussi autour des feux le soir où toutes les générations sont en train de débattre sur un concert qu'ils viennent de regarder ou sur n'importe quoi, et c'est ça qui est vraiment magnifique et magique. Donc ça s'est vraiment ouvert à tout le monde.
Et vous professionnellement, l'évolution, je pense qu'il y a une évolution, il y a eu, on a parlé et on parle souvent d'une explosion des cachets des artistes, beaucoup plus de concurrence. C'est un marché qui est devenu très 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 concurrentiel.
Ouais, ultra compliqué. En fait, les artistes avant faisaient des concerts pour promouvoir leur album, hein. Et du coup, les maisons de disques donnaient souvent des supports de tournée. Donc du coup, les cachets pouvaient être même plus bas. C'était la maison de disques qui compensait la différence ou les frais de voyage, ce genre de choses. Ensuite, les festivals sont devenus Enfin, il y en a eu de plus en plus, et c'est l'offre et la demande. Donc c'est vrai que le marché du disque a connu une baisse, mais c'est même plus ça. Ça fait 10 ans que le disque se vend moins bien. Au contraire, maintenant, je pense que ça se vend pas mal du tout.
Ça reprend un peu, ouais, effectivement. Ouais.
Et
sur le streaming notamment, enfin d'autres moyens.
Et les cachets n'arrêtent pas d'augmenter. Ça, c'est juste une histoire d'offre et de demande. Et puis, ce qui devient très compliqué, c'est qu'à un moment donné, si on doit mettre 100, 200, voire 300 000 francs sur un artiste, on veut bien les mettre, mais il fera qu'une date en Suisse. Et du coup, avec le nombre de festivals, là, ça devient une galère monumentale.
Vous en parlez de ces autres festivals, et puis justement, vous aviez en 2002, suite au concert de Lavilliers au Paléo, discuté avec son tourneur lors du festival, et il y a une petite différence. Si maintenant, serait au Paléo et vous aimeriez qu'il vienne, vous feriez différemment.
Comment oui, alors ça serait de toute façon une année avant, ça c'est sûr, et pas l'année même. Là, c'est encore le bon temps où on pouvait aller au festival au mois de juillet à Paléo et puis discuter avec un artiste en lui disant bah, viens dans deux mois. Là, c'est vrai que la programmation sort au mois de mai, donc on doit être beaucoup plus réactif. Et du coup, je vous avoue que je travaille déjà sur la programmation de l'année prochaine. Donc le travail de programmateur, c'est sans arrêt. Et puis on commence même avant que le festival se déroule pour l'année d'après.
Gilles-Pierre, on vous entend souvent évoquer le nom Paléo depuis que vous êtes avec nous. C'est le modèle pour vous ?
Non, non, il y a plein de modèles. J'adore Rock aux Arènes avec qui on a une collaboration depuis très très longtemps. Et puis une collaboration plutôt intelligente d'ailleurs, où les gens qui achètent un abonnement du Festival du Chant du Gros peuvent aller gratuitement à Rock aux Arènes. Et puis on a le même âge, donc non, il y a plein de festivals avec qui on s'entend super bien. Il y a Festineuche aussi, qui sont des amis. Et Paléo, ben, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier. C'est vrai qu'il y a pas mal de Jurassiens qui ont bossé déjà là-bas. On s'entend vraiment bien avec l'équipe de Paléo. Et puis on arrive à trouver des collaborations aussi pour la programmation. C'est vrai que Paléo, ben voilà, s'ils signent une exclusivité, en principe ils vont dire le Chant du Gros c'est ok, et du coup c'est plutôt sympa pour nous.
Gilles-Pierre, 25 ans de Chant du Gros, c'est énormément d'anecdotes. Je crois que vous en avez une belle à propos de Doc Gineco. Et on va garder un peu le suspense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une chanson et puis on se retrouve juste après pour justement avoir un peu au moins cette anecdote-là et certainement beaucoup d'autres. Ce que je vous propose, donc on continue en musique avec Doc Gineco. Viens voir le docteur, le titre de Kiki Crétin, les fanfares réunis de Courtemèche. Non, c'est Doc Gineco, une petite blague, on fait tous des erreurs. Gilles-Pierre avec nous, toujours pour parler un peu de ces 25 années, 24 éditions déjà, la 25e c'est maintenant, avec une belle anecdote, vous nous disiez au sujet de Doc Gineco.
Oui, c'était assez drôle en fait. Doc Gineco a rencontré quelqu'un qui lui a proposé d'aller faire du cheval à Chaux-de-Fonds, et du coup, il est parti.
D'accord. Mais
sans prévenir personne. Donc,
qu'il devait être là pour faire des soundcheck.
Les balances, il ne les a pas faites. Et puis, c'était une demi-heure avant le concert où tout le monde se posait la question où il pouvait bien être. Et je me souviens que le manager nous engueulait en nous disant mais c'est pas possible, mon artiste a disparu. On disait mais on ne peut pas l'attacher non plus. Quoi. Et il est arrivé 5 minutes avant le début du show, ce qui s'était bien passé. Mais voilà, c'était une anecdote assez drôle.
Et je crois que ce n'est pas la seule chose qui avait disparu. Il y a aussi le feu d'artifice de la 15e.
Oui, le feu d'artifice de la 15e avait totalement disparu. On espère que ce ne sera pas le cas cette année. Il y a une hantise des tireurs de feux d'artifice, mais alors je ne peux plus exactement vous expliquer le phénomène. Je crois que c'est par rapport à l'humidité, ou quand il fait très très chaud, et puis que tout à coup le froid tombe. Et du coup, il n'y a pas du tout de vent, et la fumée reste sur place, mais complètement sur place. Et là, c'est ce qui nous arrive au 15e. Donc les trois premières fusées étaient nickel, et après, on n'en a plus vu une. Par contre, les gens qui étaient à la Villa Roquemontès, au centre cardiovasculaire, nous ont dit que le feu d'artifice était sublime.
Bon, bah, au moins, il y en a certains qui en ont profité, c'est bien.
Et en 2012, il y a eu également donc une cuvée en or. Hein. Ce qui est important aussi de dire, c'est tous ces festivaliers qui sont venus. Hein. Vous êtes partis à 200 spectateurs. Là, on est en 2012, il y avait 33 000 personnes. Hein. Vous avez bien entendu, 33 000, pas des moindres, avec une prog d'enfer et un réveil un peu pénible le vendredi après l'after avec Zebda et Benabar. On peut en parler ?
Oui, on peut en parler, évidemment. Bah, c'est vrai que ça, c'est les petits privilèges qu'on a quand on travaille en festival ou de temps en temps. Alors, c'est pas souvent, hein, parce que les groupes ont souvent des concerts le lendemain et doivent partir assez rapidement après le concert. Là, il s'avère que c'était une bonne année vu que Benabar et Zebda n'avaient pas de concert le lendemain. Je sais pas ce qui s'est passé. Zebda s'est mis au platine, donc l'équipe de Zebda avait amené une petite sono, avait un player, et puis Benabar était démonté, et du coup on a fini je pense vers les 6-7 heures du matin dans les loges. C'était vraiment une très 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 mauvaise idée vu que le lendemain on repartait à peu près à la même heure, mais c'était un super souvenir.
Bon, Zebda, ils sont revenus également l'an dernier, ils s'étaient passés également à notre micro, on avait tenté de les confronter à cette histoire, ils avaient nié.
Ah, c'est bien possible, oui. En principe on nie toujours ce genre de fiesta.
Des soirées comme ça, des afters, on découvre ces artistes sous un autre jour, des artistes qu'on aime, qu'on idolâtre peut-être même, les découvrir comme ça, avoir ce contact personnel avec eux, ça fait quoi ?
Bah c'est des beaux moments, parce que c'est vrai qu'un artiste, bah voilà, c'est quelqu'un comme nous tous, hein, il a exactement la même vie, donc c'est vrai qu'il ne faut pas voir le côté star, mais plutôt le côté amical, comme je le disais. C'est peut-être ce qu'ils apprécient d'ailleurs quand on les accueille ici, en leur tapant sur l'épaule, en leur disant bienvenue au Chant du Gros, on est vraiment heureux de vous accueillir. Et puis c'est vrai que bah voilà, après... Il y a un certain stress parce que ils font quand même un job sur scène, où c'est qu'ils n'ont pas le droit de se louper, d'autant plus de nos jours, hein, avec un téléphone portable où dès le moment qu'il y a une petite erreur, c'est une catastrophe. Et du coup, je pense qu'une fois que le concert est passé, là, ils arrivent à se poser, à boire un coup, et puis on peut refaire le monde pendant des heures et des heures. On l'a fait par exemple avec Jacques Dutronc, qui était adorable. On a passé une soirée magnifique où il nous a raconté des anecdotes, et c'est des moments de pur bonheur.
Il y a Jacques Dutronc, il y a Benabar, il y a Zebda, il y a peut-être d'autres qui vous viennent en tête comme ça, très sympathiques peut-être.
Il y en a plein, il y a eu MC Solar qui était vraiment adorable, il est arrivé au Champ du Gros, il nous avait raconté l'histoire du festival, et ça c'est très très rare.
Bah oui, parce... il avait fait ses devoirs.
Oui, il avait fait ses devoirs, non, il est allé se renseigner, il est arrivé, il a dit ouais, alors je sais que le Champ du Gros ça appartenait au Gros Louis, que vous avez fait ce festival là au Noirmont, et puis il nous a expliqué l'histoire, donc il s'était vraiment renseigné, il est allé sur internet, et c'est assez rare. C'est vrai que les artistes en principe ont plein de dates, et souvent ils débarquent, ils partent d'un concert très tard le soir, ils arrivent ici à 7h le matin en disant ah tiens, on est en Suisse, on a passé la frontière, c'est quoi Alchamp du Gros. Donc voilà, là lui était vraiment renseigné picobello, et ça fait plaisir aussi.
L'histoire du Champ du Gros, elle est belle, elle est longue, il y a encore beaucoup d'anecdotes à raconter. Gilles-Pierre, vous restez avec nous, on vous retrouve juste après quelques notes de musique et les informations de 17h. Effectivement, non, on a juste le jingle pour couper la météo, et on est en direct effectivement avec Gilles-Pierre aujourd'hui du côté du Champ du Gros. Bon, on peut rebondir sur ce que vous disiez, Sandra. Gilles-Pierre, il fait beau pour un Champ du Gros, qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas. On va appeler les pompiers pour arroser le terrain, on a un peu souci là. Non, c'est classe. C'est le cadeau qui nous fallait pour le 25e anniversaire. Un Champ du Gros avec un grand soleil, ça sera particulier, mais je pense que ça va très bien aller.
Un grand soleil, des températures qui seront à la hausse, hein, et puis une ligne de programmation très francophone cette année, peut-être plus que jamais. Mais ça fait déjà pas mal d'années qu'on a vu défiler des pointures de la scène française, des chansons francophones. D'où ça vient?
Ah ben, le Jura parle français, hein, ça c'est bien connu, et on aime la chanson française, donc du coup le public nous le rend bien, et c'est vrai qu'on a des talents qu'on adore ici et qu'on voulait absolument inviter, et je crois qu'avec toutes ces années on a bien gagné le pari, parce que quasiment tous les chanteurs francophones ont foulé ou brûlé les planches du Champ du Gros, quoi.
Et c'est un, il faut le dire quand même, c'est un style musical, la chanson française, qui est un peu peut-être délaissé aussi d'autres événements, peut-être moins mis en avant que d'autres, et vous avez toujours joué cette carte là, c'était aussi peut-être pour se démarquer?
Oui, alors ça permet de se démarquer, on sait que le public aime ça, et puis je dois avouer que c'est quand même plus facile à travailler avec les Français qu'avec les Anglais ou les Américains. Déjà les voyages sont un petit peu plus courts, et puis on est dans une période où les festivals sont quasiment finis, donc c'est pas évident d'inviter des artistes.
Vous parlez de voyages qui sont un peu plus courts, hein, lorsqu'on a affaire à des artistes français. On peut parler d'un voyage qui était particulier, c'était celui de Joe Cocker lorsqu'il est venu.
Ouais, c'était assez drôle parce que c'était la première fois qu'un artiste nous disait qu'il venait avec son propre avion, et puis moi j'étais tout fier de lui dire ah ben excellent, vous pourrez vous poser ici à côté à Chaux-de-Fonds. Et du coup on a tout paramétré ça, et à un moment donné quand on a reçu le modèle de l'avion et que j'en ai parlé à l'aérodrome de Chaux-de-Fonds, ils m'ont dit non, ça va pas jouer, il faudra se poser ailleurs que chez nous, parce que là il va finir dans la ville son atterrissage.
Joe Cocker, c'est aussi un beau souvenir, un beau concert, parce qu'il y a la chanson française au Champ du Gros, mais il y a également beaucoup de gros noms quand même de la musique anglophone, des stars de l'histoire de la musique. Il y a eu Deep Purple, enfin il y en a eu beaucoup. Ça aussi, c'est un petit plaisir que vous faisiez chaque année, une pointure.
Ouais, dans la mesure du possible, si on arrivait à effectivement avoir une pointure internationale, on essayait. Et puis les gens sont assez nostalgiques, hein. C'est vrai qu'on trouve plus maintenant, ou très très peu, de vedettes comme ça qui arrivent à durer dans les années, et puis que plusieurs générations connaissent. Là, on a réussi à gagner ce pari ces dernières années. Je crois que c'est le cas aussi cette année avec Manu Chao, qui a traversé les années. D'ailleurs, j'ai une belle anecdote avec Manu Chao, parce que je pense que c'est un peu un pari. Un collègue qui m'a envoyé un petit message en me disant t'as pas osé dire.
Pendant le direct.
Il m'a dit, t'as pas osé dire que Manu Chao était confirmé l'année dernière. Alors voilà, c'était très sympa. C'est un pote qui s'appelle Guillaume, qui travaillait à Rocco's Arena à Avanche, et puis en fait qui a pris la signature de Manu Chao, de l'agence de Manu Chao, qui m'a envoyé la confirmation de Manu Chao. Et moi j'étais au taquet, super content, j'en ai parlé à plein de copains et tout. Et jusqu'au moment où Guillaume m'a dit, mais c'est pas Manu Chao qui a confirmé le concert. Donc on l'a vraiment cette année.
Moi c'est encore plus beau pour le 25e.
Évidemment, c'était une belle histoire, je voulais quand même la raconter. Mais c'est clair que c'est un magnifique cadeau de l'avoir ici.
Gilles-Pierre, 25 ans de bons moments, 25 ans d'amitié, 25 ans de convivialité, 25 ans d'amour finalement avec ce Champ du Gros. Si on se tourne un peu vers l'avenir, c'est quoi votre rêve ? votre rêve du sang du gros?
Oh, si on pouvait faire reformer Pink Floyd avec The Wall ici, ça serait pas mal du tout. Ou alors le boss.
Il faut de la place quand même pour
ça. Oui, il faut de la place. Mais on peut, on a de la place.
C'est vrai qu'il y a du champ là.
Non, ben. Finalement, je pense qu'il faut partir du principe que rien n'est impossible, parce qu'il y a 20 ans en arrière, c'était totalement impossible d'avoir Joe Cocker au chant du gros ou toutes les grosses vedettes qui sont passées. Donc il faut y croire, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis surtout donner du bonheur au public, garder les pieds sur terre, se souvenir d'où on vient. Je pense que c'est vachement important de se dire qu'il y a eu un moment où quelqu'un qui nous prêtait une bâche ou quelqu'un qui vient bosser 3 heures, c'est super important. Sans tous ces bénévoles, on ne peut pas monter le festival. Donc je pense qu'il faut rester serein. Il faut rester nature comme on l'est et puis se faire plaisir et faire plaisir aux gens.
Et rêvons un peu peut-être justement la suite du chant du gros. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait rêver?
Oh, il y a plein d'artistes qui me font rêver, il y a plein de projets qui nous font rêver. C'est un petit peu prématuré d'en parler, mais on sera là l'année prochaine ici pour dire ben voilà, ça c'était un rêve.
Sur 4 jours l'année prochaine?
Non, 3 jours, non.
D'accord, c'est vraiment exceptionnel cette année, 4 jours.
Ouais, c'est vraiment exceptionnel, ouais.
Gilles-Pierre, merci beaucoup d'être passé vers nous.
C'était un plaisir.
On vous souhaite une très belle 25e. Puis vous l'avez évoqué, je vous propose de conclure ce moment ensemble avec un titre de Joe Cocker.
Avec plaisir. Unchained.